Vous écoutez, on lit pour vous.
La nouvelle piscine Baldwin verra finalement le jour. Un texte de Vincent Larrain paru le 17 avril 2026 dans la presse. Après avoir navigué en eau trouble, la construction d'une nouvelle piscine dans le parc Baldwin, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, ira finalement de l'avant. La facture s'annonce toutefois salée. 27 millions. L'octroi du contrat a été approuvé cette semaine par le comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est la firme Magil Construction qui a été retenue pour les travaux au terme d'un appel d'offres ayant suscité l'intérêt d'au moins 8 soumissionnaires. Outre le bassin principal de la piscine, Magil Construction sera chargé de bâtir un pavillon des baigneurs, une pataugeoire, différents aménagements extérieurs, ainsi qu'une plage de repos. Le tout en plus de mener les opérations de décontamination et gestion des sols du site. La piscine Baldwin et ses installations seront par ailleurs déménagées à l'intérieur même du parc, dans son coin nord-est, à l'angle de la rue Folhomme et de la terrasse Guindon, où se trouve présentement un terrain de soccer. Cet emplacement avait été remis en question par le passé par des citoyens qui disaient craindre pour leur quiétude. Ce n'est pas contre le principe de la piscine, c'est contre son emplacement. Elle aurait dû être remise au même endroit, a estimé récemment une riveraine du parc Baldwin, France Rancourt. Il est maintenant prévu que les nouvelles installations soient livrées pour la saison 2028. Le contrat doit se conclure en 2029 et un retard dans son octroi pourrait entraîner des retards de ses échéances, prévient la ville. Un ancien site d'enfouissement. Construite en 1964, l'ancienne piscine Baldwin, située dans le parc du même nom, avait atteint sa fin de vie utile en 2019. Un contrat de service professionnel avait été accordé la même année en vue d'un projet de rénovation et d'agrandissement. Mais des études de sol menées en 2021 avaient révélé la présence d'un ancien site d'enfouissement sous l'installation, ce qui rendait son emplacement non viable selon l'arrondissement. Le chantier en était donc resté là jusqu'en 2024, lorsqu'un nouveau contrat de service professionnel avait été octroyé afin de relancer le projet. Mais l'avenir de la piscine Baldwin demeurait incertain depuis le dépôt du premier budget de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada en novembre dernier, puisque le projet n'y figurait pas. La mairesse du plateau Mont-Royal et élue de Projet Montréal, Cathy Wong, avait récemment affirmé que le projet irait tout de même de l'avant, grâce aux 10 % du budget qui relevait de l'arrondissement. Une réponse de la ville-centre se faisait toujours attendre. Le cabinet de la mairesse de l'arrondissement a réagi en soulignant que l'annonce de l'octroi de ce contrat était une excellente nouvelle pour les résidentes et résidents du plateau Mont-Royal. Cette étape importante a été rendue possible grâce au travail des équipes de l'arrondissement en collaboration avec la ville-centre, ajoute-t-on. Quant au coût du projet, on précise qu'il respecte les estimations prévues. C'était « La nouvelle piscine Baldwin verra finalement le jour », un texte de Vincent Larrain paru le 17 avril 2026 dans la presse.
« 65 ans et toutes ses jambes ». Un texte de Gabriel Bélan, paru le 29 avril 2026 dans La Presse. Beaucoup de kilomètres, des étirements, un mental d'acier, une bière ou un verre de vin de temps en temps et une bonne patate. C'est la recette qui a permis à Guy Dorval de remporter le marathon de Boston chez les plus de 65 ans. Rencontre avec un sportif touche-à-tout qui a commencé la course à pied sur le tard. Guy Dorval foulait les rues de Boston à une vitesse qui l'a surpris. Vrai Il avait connu un bon hiver d'entraînement dans les rues enneigées de Québec. Vrai, il avait réussi à ne pas être malade, à ne pas se blesser. Cet amateur de vin rouge a réduit l'alcool un peu. Il a bien mangé et a réussi à éloigner la tentation du fromage qu'il ne mange plus depuis 2 ans pour des raisons de santé. Pour son 7e marathon de Boston, il visait 2 heures 52 minutes, un temps que 99% des coureurs rêveraient d'atteindre. Mais l'athlète de 65 ans a dû se rendre à l'évidence. S'il évitait un claquage, s'il évitait une crampe, il allait faire beaucoup mieux. Ça ne lui était jamais arrivé avant. Mais vers le 35e kilomètre, il s'est mis à penser à ses parents. Ils sont morts. Mais Guy les a remerciés pour la génétique. Cette génétique qui lui a permis de faire du sport toute sa vie. J'ai pensé à eux. Puis quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'étais vraiment émue, se souvient Guy Dorval. Son temps final, 2 heures 48 minutes 23 secondes. Il a remporté le prestigieux marathon de Boston chez les 65-69 ans avec 15 minutes d'avance sur le deuxième. Ce chargé d'enseignement en géographie à l'Université Laval a un parcours atypique. Il a commencé la course à 46 ans. Mais j'avais un gros bagage d'endurance avant, parce que, dès 12 ans, mon grand frère m'emmenait à vélo partout sur la côte de Beaupré, raconte-t-il. Puis, il y a eu le ski de fond et le vélo de montagne. Quand il a commencé la course dans la quarantaine, il a tout de suite rejoint le club La Foulée, qu'il préside désormais. Les habitués du club lui ont dit rapidement qu'il était un gars sous les 3 heures, voulant dire qu'il avait la capacité de courir un marathon sous cette limite convoitée. À 46 ans, après avoir couru 5 fois, il fait un premier demi en 1h30. J'avais une grosse patate, une bonne patate, résume Guy Dorval, en référence à ses capacités cardio-respiratoires. Une fois que j'ai commencé à courir, je n'ai jamais arrêté. Il a réalisé son meilleur temps au marathon d'Ottawa à l'âge de 52 ans, 2 heures 39 minutes 56 secondes. Mais cette victoire de la semaine dernière au marathon de Boston représente pour lui le sommet de sa vie de coureur compétitif. Oui, c'est ma meilleure performance à vie, puis je ne l'ai pas vu venir. Une belle maladie. La recette de Guy Dorval représente un savant mélange de sérieux et de laisser-aller. Je prends de la bière, puis j'aime ça manger. Mais il s'étire quasi quotidiennement depuis 1999. Il se couche souvent à 21h30. Puis il court, court et recourt, souvent jusqu'à 5000 kilomètres dans une année. C'est une belle maladie, comme il aime le dire. Il explique une part de son succès par son arrivée tardive dans le monde de la course. La plupart des gens qui ont commencé à 20-25 ans, surtout s'ils étaient dans la performance à ces âges-là, quand ils arrivent à mes âges, le corps vient user et le mental vient user. Quand tu es jeune, tu es plus axé sur la performance. Moi, la performance est venue par elle-même. Il est d'ailleurs attristé de voir des jeunes trop miser sur la compétition et arrêter le sport tôt, car ils n'ont pas réussi à percer dans l'élite. C'est une catastrophe, dit-il. Lui, il a fait du sport un pilier de sa vie. Il se considère comme un superactif. Le sport et le plein air lui ont permis, croit-il, d'échapper à la délinquance et d'occuper un emploi intellectuel. Le sport m'a permis de m'asseoir et de travailler. J'ai une job assise, intellectuelle. Sans le sport, je ne suis pas sûre que je serais capable de rester assis à longueur de journée. Cette année, il devrait emmagasiner un peu moins de kilomètres de course. Il skie davantage l'hiver avec son frère et il fait du vélo avec sa conjointe. C'est d'ailleurs ce qui le rend plus fier, être assez en forme pour faire du sport au quotidien. Le jour où la course va le maganer, il a l'intention de cesser la performance et de courir sagement à des allures de simple mortel. Faire du cyclotourisme avec ma conjointe ou de la marche, faire du ski de fond l'hiver avec un de mes frères, pour moi, ça prime par rapport à ma médaille de Boston. J'en suis fier de ma médaille, mais ce n'est pas la fin en soi. Moi, c'est d'être en santé. Moi, ce que j'aime, c'est être dehors. C'était 65 ans et toutes ses jambes. Un texte de Gabriel Bélin, paru le 29 avril 2026 dans La Presse.
Réussir sa mort, partie 2. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 12 avril 2026 dans La Presse. L'aide médicale à mourir, encore. Désolé, mais il faut bien en parler. On va tous mourir, après tout. Il y a cette question. Pourquoi le Québec est-il champion du monde de l'aide médicale à mourir, AMM? C'est une bonne question, posée notamment ces jours-ci par Manuel Légaré dans sa pièce de théâtre documentaire « Club Sandwich Mayonnaise » sur la mort de son père, l'humoriste Pierre Légaré. Une réponse populaire, instinctive. Le système de santé est tellement mauvais que les gens préfèrent demander l'aide médicale à mourir que de croupir dans les hôpitaux. Le hic, c'est que rien ne prouve cela. Un groupe de travail co-dirigé par Laetitienne Marie-Ève Boutillier se penche sur l'aide médicale à mourir. Rien ne permet, dit-elle, de lier le manque d'accès aux soins à la popularité de l'AMM. On me permettra de puiser dans un échantillon non représentatif pour ajouter de l'eau à ce moulin-là. En 10 ans d'AMM, j'ai écrit souvent à ce sujet sous plusieurs angles. Je n'ai pas souvenir d'un seul message reçu d'une personne ayant demandé l'AMM parce qu'elle ne recevait pas des soins adéquats, ni de proches qui, après un décès par AMM, m'auraient signalé une telle ignominie. Je ne dis pas qu'aucun Québécois n'a, par dépit et par manque d'accès aux soins, réclamé l'AMM. Je dis simplement que ce lien de causalité, système de santé défaillant égale plus d'AMM, n'est pas appuyé par les faits. Idem pour ce qui est d'un supposé manque de place en soins palliatifs. Une large proportion des personnes ayant demandé l'AMM au Québec sont passées par une forme ou une autre de soins palliatifs. Je reviens à la question. Pourquoi le Québec est-il champion du monde de l'aide médicale à mourir avec 6268 Québécois décédés par AMM en 2025, soit 7,9% des décès? À l'échelle du Canada, 36% des décès par AMM ont lieu au Québec, contre 30% en Ontario et 18% en Colombie-Britannique. Ça nous place au sommet des décès par AMM, malgré la poignée d'endroits dans le monde où cette façon de mourir est possible, sous une forme ou une autre. Alors, pourquoi sommes-nous les champions de l'AMM? Je vois trois facteurs. 1. Nous avons fait le débat au Québec sous l'impulsion de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, co-présidée par les députés Geoffrey Kelly et Véronique Yvon. Des milliers de citoyens ont parlé. Le débat s'est fait lentement, sereinement, pendant qu'il ne se faisait pas dans les autres provinces canadiennes. Quand le Québec s'est doté de sa loi, la Cour suprême rendait par hasard sa décision dans l'arrêt Carter. Le fédéral a dû modifier le code criminel pour permettre l'AMM partout au pays, sans ce débat social que nous avions eu ici. 2. Plus des Québécois demandent l'AMM, plus des Québécois vont la demander, parce que sa normalisation expose plus de Québécois à ce soin. Ça fait moins peur quand on a vu son grand-papa, sa meilleure amie ou son mari recevoir le soin ultime. 3. L'aide médicale à mourir est bien intégrée dans le système de santé québécois. Ce n'est plus un mystère. La machine sait comment traiter les demandes. Les médecins sont de moins en moins réticents à en pratiquer. L'AMM est même offerte en maison de soins palliatifs, une hérésie dans ce milieu il y a à peine 10 ans. Il peut y avoir d'autres facteurs qui expliquent pourquoi tant de Québécois choisissent l'aide médicale à mourir. Je suis ouvert aux observations, au débat. On parle des dérives possibles de l'aide médicale à mourir ces jours-ci. Il faut rester vigilant, bien sûr. Mais la Commission sur les soins de fin de vie, il faut le rappeler, peut faire part de ses soupçons concernant une AMM irrégulière au Collège des médecins qui peut enquêter. On peut aussi alerter la police si on soupçonne que des soignants agissent dans l'illégalité. Ça s'est vu au moins une fois. La médecin a été acquittée au terme d'un procès. Pour ma part, même si j'ai appelé de tous mes voeux la légalisation de l'AMM, j'ai des réserves quant aux nouvelles frontières fixées par les tribunaux et les parlements. Sur les démences qui se développent, par exemple, je constate qu'agir sur la foi de directives anticipées est plus complexe que dans le cas d'un cancer. Pour les maladies mentales aussi, je suis dubitatif. J'ai aussi le luxe de ne pas avoir souffert toute ma vie d'une telle maladie. Et pour ce qui est de décider à la place d'autres personnes, comme des enfants ou des handicapés, ma position est simple, c'est non. On peut parler des dérives potentielles de l'AMM, on peut. Faisons-le, calmement. Mais peut-on parler des dérives de l'Ancien Régime, des années, des décennies, des siècles avant l'AMM? Peut-on parler du supplice qui s'étirait, de la douleur physique, de la douleur morale? En 2000, puis en 2004, mon père puis ma mère sont morts, très jeunes, du cancer. Il y avait à cette époque que cette dérive, encore plus terrible que ce qu'on redoute ces jours-ci à mon sens, n'avoir aucune autre option que celle d'attendre la mort à petit feu. À moins, bien sûr, de se tuer soi-même. Je me souviens de la mort de cette femme, atteinte de sclérose en plaques. L'aide médicale à mourir existait. C'était en 2016. Mais les critères de l'époque excluaient les cas comme celui de Louise Laplante. Elle s'est donc laissée mourir de faim. Ça, c'est une dérive. C'était « Réussir sa mort », un texte de Patrick Lagacé, paru le 12 avril 2026 dans la presse.
Interdiction du port de signes religieux en milieu scolaire. La FTQ prévient que de nombreux emplois seront perdus. Un texte de Jennifer Gravel, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, demande jeudi à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, d'intervenir pour stopper l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction du port de signes religieux dans le réseau de l'éducation, estimant que cette décision se traduira par une perte d'emploi pour des centaines de femmes. L'organisation syndicale a des craintes pour différents corps d'emploi, dont le personnel en service de garde, les techniciennes en éducation spécialisée, les préposés aux élèves handicapés, les secrétaires d'école, etc. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que les congédiements à venir visent principalement les femmes, souvent diplômées et surqualifiées, a déclaré dans un communiqué la présidente de la FTQ, Magali Picard. La majorité des parents québécois à l'aise avec les signes religieux en garderie. Un sondage léger paru mardi et commandé par l'Association des garderies privées du Québec, AGPQ, démontre qu'une majorité de parents, 68%, au Québec sont à l'aise qu'une personne portant un signe religieux à visage découvert s'occupe de leur enfant. La FTQ affirme que des membres du personnel de soutien de différents centres de services scolaires ont reçu des lettres de leur administration les menaçant de perdre leur emploi s'ils refusaient de ne plus porter tout objet s'apparentant à un signe religieux. Magali Picard estime que cette décision ne peut qu'avoir des effets négatifs et considérables sur des milliers d'élèves, de parents et le personnel de ces établissements. Nous sommes déjà en pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, nous risquons des bris de service, a-t-elle déploré. Si la loi sur l'interdiction du port de signes religieux comporte une clause de droit acquis, la FTQ l'estime arbitraire. Ce sont les ressources humaines des centres de services scolaires qui auront à juger de la recevabilité ou non de la demande, a expliqué Magali Picard. Le Québec doit rester une société accueillante et ouverte sur le monde, a conclu la présidente de la FTQ, qui représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses. Notons que le sort de la loi 21 sur la laïcité de l'État et, surtout, de la disposition de dérogation que le gouvernement de François Legault a utilisée pour la soustraire à l'exercice de certains droits est maintenant entre les mains de la Cour suprême. La cause a été prise en délibéré. Il serait étonnant d'avoir une décision avant les élections provinciales au mois d'octobre, la Cour ayant plusieurs fois exprimé sa réticence à intervenir dans l'arène politique. C'était interdiction du port de signes religieux en milieu scolaire. La FTQ prévient que de nombreux emplois seront perdus. Un texte de Jennifer Gravel, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info.
Inclusion au grenier des aubaines, le bénévolat qui change des vies. Un texte de Diane Lapointe, paru le 23 avril 2026 dans La Relève. Si faire du bénévolat donne des ailes, pour certains, cela peut aussi et surtout changer une vie. Dans le cadre de la semaine du bénévolat, La Relève a rencontré des bénévoles au parcours marquant. Depuis septembre dernier, un plateau de travail thérapeutique a pris place au grenier des aubaines à Boucherville. La ressourcerie offre à une douzaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme un environnement structuré pour s'épanouir. Accessible 5 jours par semaine, il permet aux participants de faire du bénévolat quelques jours à la fois selon leur rythme. Le programme, appelé plus précisément « Plateau d'intégration en emploi », est mis en place par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-S, CISSME. C'est eux qui nous ont contactés l'année dernière parce que l'un des plateaux de travail existants, géré par une entreprise privée, était devenu trop axé sur la performance, explique la directrice générale du Grenier des Aubaines, Diane Donofrio. Ici, l'approche est tout autre. Les participants évoluent dans un environnement flexible où aucune tâche ne leur est imposée. Accompagnés d'une assistante en réadaptation, ils peuvent explorer différentes activités selon leurs intérêts et leurs capacités. Tri d'objets, entretien ménager, préparation de jouets, vérification de casse-tête, etc. On leur présente les différents espaces, puis avec l'intervenante, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. « Ce n'est jamais nous qui décidons pour eux », insiste Mme Donofrio. Ils peuvent faire des essais. Des fois, ça ne fonctionne pas. Puis ils essaient autre chose, ajoute-t-elle. Présents jusqu'à 5 heures par jour, les participants développent à leur rythme des habiletés concrètes dans un cadre adapté et sans pression de performance. Ça fait une activité quotidienne dans laquelle ils rehaussent leur estime de soi et contribuent à la société. Ils créent des liens sociaux entre eux et ils développent des compétences. Puis, cela procure du répit aux parents, souligne la directrice générale. Le plateau repose sur deux volets distincts, mais complémentaires. D'un côté, l'intégration au travail vise à permettre à certains participants de développer suffisamment d'autonomie pour éventuellement intégrer un emploi ou faire du bénévolat de façon indépendante. Notre mission, c'est qu'ils soient capables, éventuellement, d'aller travailler ou de faire du bénévolat autonome sans avoir besoin du plateau, explique l'intervenante en réadaptation qui a demandé l'anonymat. Certains y parviennent. Elle cite notamment l'exemple d'un participant qui, après être passé par un plateau, agit désormais comme bénévole autonome. De l'autre côté, le plateau répond aussi aux besoins de personnes qui n'atteindront pas ce niveau d'autonomie. Il y en a qui vont rester en plateau toute leur vie en raison de limitations plus importantes. Pour eux, les bénéfices sont ailleurs : structure, socialisation et valorisation. Pour les participants, l'expérience est d'abord humaine. J'aime être avec mes collègues et je me suis fait des amis, raconte Marie-France Quintin. J'aime ça faire des choses, trier les vêtements et accrocher le linge. Je viens deux fois par semaine et c'est important pour moi parce que ça me tient occupée. Moi, j'aime ça venir ici, c'est pour la joie, le bonheur. Ça me donne de l'expérience et de l'espoir pour l'avenir. J'aimerais ça trouver un emploi ensuite, confie-t-elle. Au-delà du travail, des moments marquants viennent aussi nourrir le sentiment d'appartenance. Les deux participantes évoquent notamment une sortie récente au restaurant avec l'équipe du Grenier des Aubaines, un moment qu'elles ont particulièrement apprécié. Au quotidien, les impacts se font sentir tant chez les participants que dans leur entourage. En plus de développer des compétences pratiques, plusieurs gagnent en confiance et en estime de soi. Le simple fait d'avoir une routine et de contribuer à leur manière à la collectivité fait une réelle différence, souligne Mme Donofrio. Car là, au-delà des tâches accomplies, c'est surtout un sentiment qui se construit, celui d'avoir enfin sa place. C'était « Inclusion au grenier des aubaines, le bénévolat qui change des vies », un texte de Diane Lapointe, paru le 23 avril 2026 dans La Relève.